Merci pour cette magnifique, plus qu'introduction, pour ce magnifique temps de louange, exhortant et en même temps qui nous replace à notre juste place et en même temps qui introduit parfaitement, effectivement, le passage et j'espère le message que le Seigneur a mis dans mon cœur à la lecture de ces lignes. J'aime l'orage. J'aime vraiment l'orage. Dans la région d'où je viens, il y en a beaucoup. Et ici, il y en a aussi, mais moins souvent, mais très concentré. Alors, quand ça arrive, j'aime l'orage. Et en général, on se précipite à la fenêtre. On aime voir les éclairs tonner, gronder l'orage. Voir cela compter des secondes entre la lumière que l'on voit et le son qui parvient à nos oreilles. Et essayer d'estimer à quelle distance s'est produit la déflagration. Pourtant, j'ai un souvenir relativement traumatisant d'un orage. Alors, c'était un orage dans lequel... j'aime l'orage quand on est à l'abri, hein. On aime bien l'orage quand on est à l'abri, justement, et on aime bien voir comme ça. Mais j'ai justement un souvenir un peu plus traumatisant d'un orage. On était en train de rénover une maison, hein, dans un petit village du Haut-Doubs. Et puis, on était justement dans une période avec le toit ouvert sur une dizaine de mètres. Et j'avais bien arrimé les bâches pour protéger de la pluie. Parce que, voilà, il fallait bien que le chantier se déroule même avec de la pluie. Sauf qu'une nuit, l'orage fut si violent que le téléphone sonna de bon matin. C'était notre voisin. C'était la rénovation d'une ferme que nous avions achetée et nous partagions la ferme qui était une grande ferme. Donc on avait un pan de toit et puis c'était une mitoyenneté. Et le voisin qui avait l'autre pan de toit m'appelle et le téléphone la voix de ce cher voisin à ce moment-là n'était pas très agréable comme à entendre au réveil notamment. J'ai vite compris qu'il fallait d'urgence me rendre à ce chantier. On n'habitait pas sur place. Et en arrivant, la bâche était complètement enlevée, arrachée, et les flots de pluie se déversaient dans l'habitation. Alors, chez nous, c'était un chantier, il n'y avait pas trop de mal. Mais chez le voisin qui habitait sur place, c'était une autre histoire. Et je me souviens toujours de son accueil, à peine de chantier à la main, prêt à me casser la figure, et avec quelques amis qui l'ont retenu, et voilà, c'était tout un truc. Je me souviens encore de monter sur le toit, d'être en galère avec le vent, en essayant de remettre la bâche et d'ajouter des morceaux de bois pour arrimer tout cela, et dans mon désespoir, je suppliais le Seigneur de m'aider. Et une entreprise du coin est venue en urgence pour me prêter main forte avec une équipe, du matériel, ils sont arrivés. Et quelques heures, le chantier était sécurisé, on a pu faire le constat des dégâts, et par la suite, dans les mois qui ont suivi, une expertise qui, je dois le dire, m'a blanchi, disant que j'avais bien fait ce qu'il fallait, que la tempête était suffisamment forte pour arracher ce qui était mis en place. Bref, suite à cet incident, qui est rentré dans l'ordre, heureusement. Quand l'orage arrivait, j'ai eu pendant longtemps une arrière-pensée de crainte. J'ai eu un espèce de traumatisme lié à l'orage, où j'avais cette crainte, où je me disais, est-ce que l'orage va faire des dégâts, etc. Tout cela pour dire que, parfois, un souvenir peut laisser une marque, un traumatisme. Il y a dans le passage que nous allons lire ce soir un souvenir traumatisant pour Pierre. Pierre, peu avant notre passage, était autour d'un feu, et autour de ce feu, il a renié son maître, alors que lui s'était engagé plus que les autres encore, il a renié son maître. Et autour d'un feu, on a bien sûr les odeurs que nous apprécions, que nous connaissons. Les psychologues font remarquer que la mémoire olfactive, donc l'odorat, est la plus prégnante des mémoires. Et Jésus va mettre en place, après sa résurrection, une ambiance intentionnelle pour s'adresser aux disciples, dont le plus zélé, Pierre, qu'il a renié 3 fois de suite. Alors bien sûr, avant que Pierre renie son maître, il est dit que tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Jésus va venir à leur secours et il va prendre un soin particulier en secourant le plus culpabilisé des disciples. Si Jésus pardonne Pierre, le pire de tous, il pardonne par conséquent les autres dont l'abandon a été moins notable. Je vous propose de prendre le passage de Jean au chapitre 21 à partir du verset 15. Donc, dans les Bibles que vous avez sur vos chaises, c'est à la page 705. Et dans ce passage, au chapitre 21, à partir du verset 15, nous sommes après que Jésus soit ressuscité, qu'il est apparu 3 fois aux disciples, c'est la 3e fois qu'il apparaît aux disciples ici. Il leur a rappelé leur vocation juste avant notre passage, par un souvenir également, le souvenir d'une pêche miraculeuse qui marquait le début de son temps aux côtés des disciples, de son ministère aux côtés des disciples, en leur rappelant que lors de cette pêche, il les avait appelés non pas à demeurer des pêcheurs de poissons, mais à devenir des pêcheurs d'hommes. Et juste après cela, ils arrivent sur le bord de la mer, et il y a un feu. Il y a un feu, et Jésus leur donne à manger. Et nous arrivons à notre passage à partir du verset 15. Je vais faire lecture. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si tu veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? » C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde entier pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Voilà, ici prend fin la lecture de notre passage et même la lecture de l'Évangile selon Jean. Pierre fut attristé de ce qui lui avait dit pour la 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » En voulant aimer Jésus par ses propres forces, Pierre est confronté à la réalité de son incapacité à l'aimer. Alors, quelles étaient les prétentions de Pierre jusqu'ici ? On va vous lire un extrait de ce que Pierre a déjà annoncé bien avant. Il prit la parole, Pierre prit la parole, et il dit, « Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. » Et encore, Pierre lui dit, « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. C'est les citations que nous avons dans les évangiles. En quelque sorte, Jésus est en train d'attrister Pierre pour le pousser à vivre la repentance nécessaire et même salutaire dont il a grand besoin. Il n'a pas besoin d'être boosté dans son estime de soi. Il a une estime de soi, peut-être pas à la hauteur de Nebuchadnezzar, mais qui est quand même, qui l'empêche de voir et de qui l'empêche de venir à Jésus d'une bonne manière. Il n'a pas besoin d'être boosté dans l'estime de soi, mais dans la dépendance à son Seigneur. C'est tout à fait différent. Il a besoin d'être encouragé dans sa dépendance au Seigneur. La réponse honnête de l'homme confronté à sa faiblesse l'empêche de bomber le torse. Au contraire, devant l'échec humain, ce ne peut qu'être un amour bien faible, mais authentique, qui s'appuie sur Dieu. Dans ce moment-là, Pierre ne peut pas bomber le torse ou dire « Vois-tu, Seigneur, combien je t'ai aimé plus que ceci ?» Pierre est bien attristé et il est bien obligé d'admettre son échec, sa faiblesse. Mais cela le pousse à s'appuyer sur ce Dieu qui est là, patient, plein de bonté, pour le faire progresser dans sa compréhension, sa connaissance de lui. C'est placer sa confiance dans ce Dieu infaillible, parfaitement fidèle, pleinement amour, dont les caractéristiques ne sont pas en nous, ne sont pas dans l'apôtre Paul, dans Pierre, le disciple de Jésus qui sera l'apôtre Pierre. Autrement dit, venir à Jésus, c'est accepter d'être attristé pour un temps, probablement dans le processus, afin de s'accrocher à lui seul et à plus rien d'autre. Une dépendance nécessaire, une dépendance salutaire et saine. Aimer Jésus, c'est expérimenter son amour. Nous lisons dans le chapitre 13 du livre de l'Évangile selon Jean, un dialogue entre Pierre et Jésus. Pierre dit à Jésus, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant, là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Seigneur lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis. » Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies réuni trois fois. Juste avant notre passage, Jésus rappelle la vocation des disciples. Ils sont témoins de Christ et ils vont annoncer la bonne nouvelle dans les nations. Et beaucoup d'hommes et de femmes viendront dans les filets de l'Évangile. Ils ne sont plus appelés à être des pêcheurs de poissons, mais à des pêcheurs d'hommes. Et ici, après avoir rappelé la vocation des disciples, Jésus rétablit Pierre dans sa mission par l'appel à une relation d'amour authentique. Il rétablit Pierre dans une relation authentique d'amour avec lui. Être un témoin de Dieu nécessite premièrement d'avoir expérimenté l'amour de Dieu. Et ça signifie d'être aimé et de se savoir aimé alors que nous n'aimions pas. Il est nécessaire d'avoir été aimé alors que nous n'étions pas en train d'aimer. À l'image peut-être d'un parent qui aime son enfant de manière ultime, sans retour, inconditionnel. Un parent qui aime son amour, qui aime son enfant inconditionnellement. Expérimenter l'amour de Dieu, c'est en arriver là, c'est reconnaître que son amour précède le nôtre et que si nous avons de l'amour pour lui, ce n'est qu'une question de retour. Et c'est ce que Pierre est en train de découvrir ici, avec dans cette situation où il était pris par la réalité de son pauvre amour pour le Seigneur. Reconnaissons-nous que nous n'avons aucune compétence naturelle pour aimer Dieu par nos propres forces? Ça, c'est une question que vous vous posez. Est-ce que nous reconnaissons cela? Est-ce que nous reconnaissons que nous n'avons pas les compétences internes pour aimer Dieu par nous-mêmes? Et finalement, si nous le reconnaissons, eh bien, c'est la condition unique pour expérimenter l'amour de Dieu que rien ne peut altérer ou que rien ne peut arrêter. Nous avons besoin de passer par cette prise de conscience pour réaliser et pour connaître, pour expérimenter l'amour de Dieu. Tant que nous sommes forts pour l'aimer, son amour n'est que normal, puisque nous sommes des bonnes personnes. Nous avons besoin de réaliser notre pauvreté, notre incapacité à l'aimer, pour bénéficier et pour expérimenter cet amour inconditionnel. Alors après, cette question « M'aimes-tu ?» et ce qui est nécessaire à réellement donner une réponse. Oui, tu sais que je t'aime, petitement certes, mais oui, je t'aime en retour de ton grand amour. Jésus invite Pierre à le suivre. Suis-moi. Alors, suivre Jésus. Pierre offre donc à Jésus cet amour bien faible. Et on est loin de cette déclaration glorieuse, de cet amour épatant qui se dit prêt à aimer jusqu'à la mort. Aimer Jésus, c'est lui offrir notre peu d'amour. Il y a une histoire dans l'évangile de Jean également, au chapitre 6, où Jésus et ses disciples sont devant une foule et il est question de nourrir cette foule. Mais voici, les disciples n'ont pas les ressources pour nourrir toute cette foule. Il y a, parmi les gens assemblés, un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais la réflexion qui est faite, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Et si vous lisez ce récit, au chapitre 6, vous découvrez que ce peu de ressources est utile et utilisé par Jésus-Christ pour nourrir toute cette foule. Qu'est-ce que cela pour tant de monde met entre les mains de Jésus? C'est suffisant et Jésus va multiplier ses pains et ses poissons pour nourrir cette foule. Autrement dit, confier à Jésus le peu que j'ai, mes 5 pains et mes 2 poissons. Car lui seul est capable de transformer cela en un repas copieux pour une foule entière. Il n'est pas question de confier à Jésus nos grandes richesses et de le voir les utiliser comme on aurait plus ou moins aimé, mais de reconnaître que nous n'avons pas grand-chose à lui confier. Mais le peu que nous ayons, lui confie, sachant que il est le seul à faire fructifier ce que nous avons, le peu que nous avons. Les Écritures mettent l'accent sur l'objet de notre foi et non sur notre foi ou nos capacités à faire confiance. C'est bien Christ qui est l'objet de notre foi. Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui est l'objet de notre foi. L'accent n'est jamais mis sur notre foi à nous, notre confiance. Il est question du minimum vital, un peu de foi, une petite confiance, une foi vacillante, certes, mais dans le Dieu qui est tout-puissant. Et c'est là qu'est l'accent, c'est sur Dieu qu'est l'accent. C'est de Dieu dont il s'agit. C'est de Dieu manifesté en Jésus dont il s'agit. C'est bien lui qui détient le pouvoir de nous mener jusque dans la vie éternelle, et ça ne dépend pas de nous. Sinon, on aurait là une bien belle opportunité de nous glorifier nous-mêmes. On pourrait chacun s'évaluer et bomber le torse. Se glorifier d'être des bons disciples, d'avoir en nous les ressources pour arriver jusque dans la vie éternelle, faire les choses et mériter le salut. Et les Écritures mettent l'accent sur la foi nécessaire dans le Dieu Tout-Puissant. Et finalement, suivre Jésus, c'est renoncer à moi et aux autres. après notre passage, à la fin du passage, Pierre voit venir Jean et il dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusque-là, jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? Toi, suis-moi. » Suivre Jésus, c'est arrêter de l'aimer pour paraître aux yeux des autres ou devant les autres ou en comparaison des autres. Mais l'aimer simplement lui seul, pour lui. Il y a cette réflexion par rapport à l'environnement, à notre environnement. Est-ce que notre environnement nous pousse à aimer Jésus ? Est-ce que c'est facile d'aimer Jésus dans notre environnement ? Est-ce que dans notre environnement, ce serait difficile de ne pas l'aimer ? Ou l'inverse, est-ce que notre environnement nous pousse à ne pas cultiver l'amour pour Jésus, en tout cas ne pas en parler ? Est-ce que ce serait difficile d'aimer Jésus dans notre environnement ? Mais dans la première situation, je pense souvent aux familles dont la foi en Jésus-Christ, l'Évangile, se vit pour la deuxième ou la troisième génération. Je suis moi-même un enfant de parents chrétiens convaincus. La Bible avait une place importante à la maison. Et pour nous, chrétiens de deuxième génération ou troisième génération, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une pression familiale, un mode de vie sociale inscrit dans lequel il est plus facile d'aimer Jésus ? Finalement, c'est la facilité d'aimer Jésus. C'est l'ambiance de la maison. Est-ce que dans cet environnement, nous nous comparons aux autres et nous voulons paraître d'une manière ou d'une autre ? Nous voulons être quelqu'un. Et pour être quelqu'un, nous faisons ce qu'il est nécessaire de faire pour paraître aux yeux des autres. Si on est dans un environnement qui glorifie Dieu, nous voulons être le meilleur. Et si c'est le cas, enfin c'est ce qui me semble voir dans ce passage, c'est que devant les disciples, Pierre voulait être le meilleur, le premier. Il était, son identité dépendait du regard des autres et de sa comparaison aux autres. Est-ce que nous sommes dans cette comparaison les uns aux autres ? Alors après que Pierre a tristé, mais pour le salut, pour une bonne cause, après que Pierre ait répondu à Jésus pour la troisième fois, Jésus va lui indiquer une nouvelle merveilleuse et une nouvelle en même temps difficile. Ce qui est merveilleux, c'est que Pierre restera désormais fidèle à Jésus. Ça, c'est vraiment la merveilleuse déclaration de Jésus. Pierre lui restera fidèle désormais. Il n'y aura plus de reniement. Jésus avait anticiper le reniement de Pierre. Il lui avait dit, tu me renieras trois fois avant que le coq ne chante. Et c'était arrivé. Et ici, la merveilleuse nouvelle, c'est que Jésus déclare à Pierre qu'il lui sera désormais fidèle jusqu'à la mort. Alors, c'est merveilleux, mais ce qui est difficile à la fois, c'est que Jésus parle d'une mort de supplice. Et une mort qui glorifiera Dieu. Il lui dit, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il dit, suis-moi. Suivre Jésus, c'est avoir l'assurance de lui rester fidèle jusqu'au bout grâce à son secours, grâce à l'Esprit de Dieu agissant. Une garantie qui nous est donnée. Et suivre Jésus, ce n'est plus s'appartenir, mais appartenir entièrement à Dieu et lâcher prise. Il y a une bonne nouvelle, puisqu'on est garanti d'une fin glorieuse, mais en même temps, le prix que ça représente, c'est de ne plus s'appartenir à soi et d'accepter que le plan de Dieu souverain se déroule dans notre vie. Alors, quelques applications par rapport à ce passage. On aurait pu dire beaucoup d'autres choses sur ce passage. J'ai choisi d'aller dans cette direction. Et je vous propose quelques applications. La première application, c'est un émerveillement quant à la capacité de Jésus de revenir vers ses disciples et de continuer à investir son amour en eux. Tous l'ont abandonné. Pierre a excellé dans l'abandon en allant jusqu'à le nier verbalement 3 fois de suite. Jésus donne sa vie. Il a vaincu la mort. Il revient auprès d'eux, se présente à eux. Ils étaient alors incrédules quant à sa résurrection et patiemment se présente à eux une première fois, une deuxième fois, ici une troisième fois. Et il les rétablit dans leur vocation. Eux qui l'ont abandonné. Et pour accomplir cette vocation, il met en place ce décor tout à fait nécessaire et pour doucement rappeler à Pierre sa condition, son échec, et restaurer Pierre dans cet échec, venir restaurer ce traumatisme, venir lui faire comprendre la nécessité de s'abandonner entre ses mains. Ce passage démontre que Dieu, en Jésus-Christ, est en train de poursuivre des hommes bien faibles, bien pécheurs, bien faillibles, et qu'il ne lâche pas l'affaire, il ne les abandonne pas à eux-mêmes, il les poursuit. Cette capacité à aimer, à poursuivre dans son amour, est un sujet d'émerveillement. Et cela a de quoi nous rassurer quant à la capacité immense de Dieu à nous pardonner et à rester fidèles même si nous sommes infidèles. Ce n'est pas une licence pour que nous soyons infidèles en sachant que Dieu demeure fidèle, mais c'est une réalité qui nous secoue et qui nous donne de quoi être rassurés quand nous avons un doute, quand nous voyons notre faiblesse, quand nous sommes pris devant la réalité de nos incapacités. Rappelons-nous que Dieu est fidèle et qu'il poursuit son amour de manière incroyable, au-delà de ce que nous penserions raisonnable. Première application. Deuxième application. Après avoir expérimenté l'amour de Dieu inconditionnel, je devrais aimer Dieu davantage, et pour les bonnes raisons. Jésus avait cité une histoire où il était question de deux personnages, et la question finale est la suivante. Qui est celui qui aimera plus, enfin, suite à un pardon accordé, un grand pardon accordé, ou une petite dette qui est remise? La question de Jésus dans cette parabole est: qui des deux l'aimera le plus? Et la réponse logique, celui à qui tu as remis la plus grande dette. La question est: ai-je conscience que Dieu m'a remis une dette infiniment grande? Et en prenant conscience de la taille, de la grandeur de ma dette, alors l'amour en retour devrait être plus grand. Après avoir expérimenté l'amour de Dieu inconditionnel, je devrais aimer Dieu davantage et pour les bonnes raisons. Est-ce que je réalise à quel point j'ai été aimé alors que j'étais loin de Dieu, alors que j'étais pécheur, alors que ma vie n'avait rien pour lui plaire? En d'autres termes, comment est-ce que j'évalue ma dette envers Dieu? Est-ce que c'est une dette raisonnable? Est-ce que je suis finalement quelqu'un de pas trop mal, donc Dieu peut bien m'aimer quand même, au moins un peu? Ou est-ce que ma dette envers Dieu était infiniment grande? Dites encore autrement, quelle opinion ai-je de moi devant mon Créateur? Quelle opinion ai-je de moi devant mon Créateur? Celui à qui on a remis la plus grande dette l'aimera plus. Et enfin, je vous propose de voir quelle part l'environnement dans lequel j'évolue influence la qualité de mon amour pour Jésus. Est-ce que j'aime Jésus pour lui ou pour moi? Est-ce que j'aime Jésus en voulant paraître devant les autres pour que je récolte les lauriers? Est-ce que ma manière de vivre est une manière de recevoir pour moi le respect, les compliments, la considération des autres? Ou est-ce que j'aime Jésus pour lui seul? Un émerveillement quant à la capacité de Dieu à m'aimer et être rassuré pour cela. Réaliser que j'ai bénéficié d'une remise de dette plus grande et alors un amour plus grand en retour. Et l'environnement qui me pousse à l'aimer, ou alors un amour pour Jésus, pour lui seul. Quelles que soient nos réponses, peu importe les réponses, quelle que soit notre situation, notre relation avec Dieu, quel encouragement ici de constater l'amour, la patience, la bonté de Jésus pour Pierre qui vient de le renier. Dieu ne change pas. Et il continue à nous poursuivre par sa grâce avec patience. Ici, Jésus a poursuivi Pierre de manière déraisonnable. Et Dieu ne change pas. Dieu est immuable. Donc nous pouvons être assurés qu'il continue et il continuera à nous poursuivre par sa grâce avec cette même patience. Voulons-nous user de sa patience et le mettre à l'épreuve, ou est-ce que ce passage nous suffit d'exemple pour ne pas vouloir à notre tour expérimenter d'aller aussi loin? En conclusion, on peut être encouragé car le chemin parcouru par Pierre donne raison à l'accompagnement de disciples qu'il a reçu de Jésus durant son ministère sur la terre, mais encore bien plus ensuite, quand il a été accompagné non pas par Jésus physiquement à ses côtés, mais par l'Esprit, le Saint-Esprit, qui a fait de Pierre un homme véritablement transformé. C'est ce que nous lisons notamment dans le livre des Actes. Quelle transformation de caractère, de comportement dans la vie de Pierre. Il y a là de quoi être encouragé. Nous voyons l'évolution d'un homme qui était à l'image de Nebuchadnezzar et qui devient à l'image de Jésus-Christ. Et tout cela après avoir été confronté à l'amour de Dieu en Jésus-Christ. D'un souvenir traumatisant, voilà comment Dieu est tout-puissant pour accompagner, venir au secours, et finalement nous accompagner vers la véritable guérison qui permet d'affirmer avec l'apôtre Paul que si j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Jésus avait adressé sa parole aux disciples en leur disant de nouveau « Que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors, après... est-ce que tu peux mettre le titre? Et encore et encore. Après cette question « Quelle opinion avez-vous de vous-même » par rapport à cette question de suivre Jésus? Eh bien, suivre Jésus, c'est être premièrement assuré que Dieu nous aime fidèlement et que dans cette fidélité, il nous permettra d'accomplir cette mission, cette mission de représenter, de refléter cette réalité d'amour. Je vous propose de prier. Merci, Seigneur Jésus, parce que ta parole est magnifique, elle est encore pertinente pour nous aujourd'hui. Et elle nous montre combien ton amour est à l'œuvre, combien cette grâce, cette justice acquise, tu veux absolument nous en faire bénéficier. Nous ne sommes pas des gens parfaits, mais nous connaissons un Sauveur merveilleux. Nous sommes appelés à reconnaître nos incapacités pour mettre à ton service le peu que nous avons et alors voir entre tes mains comment tu veux nous transformer, faire fructifier, guérir, restaurer, nous accompagner. Et nous le voyons ici, dans une fidélité à toute épreuve, que cette lecture nous encourage pour faire tous nos efforts et répondre à ton grand amour par un amour fidèle également, en comptant sur toi et en demandant encore ton intervention et ta grâce pour que nous puissions vivre cela. Et nous le croyons, car c'est ce que tu souhaites, c'est ta volonté. Merci d'accompagner, de continuer d'être là avec nous chaque jour. C'est ta promesse également. Amen.